Bonsoir à tout le monde. Alors depuis mercredi passé, comme je l'avais dit, puisque le joueur titulaire n'était pas là, on a recouru au banc de réserve et pour demander aux remplaçants de faire quelque chose. Et je voudrais vous rassurer, le titulaire revient mardi prochain et il reprendra sa belle série sur la tentation, réalité ou mythe. Une étude que j'ai eu à suivre des bribes est très très riche, très très enrichissante et je pense à la fois individuellement en tant que croyant mais aussi en tant qu'église on en a besoin. Mais entre les deux, je voulais juste ouvrir une parenthèse que j'ai fermée avec ces deux réalités que tout serviteur de Dieu rencontre un jour sur le chemin de la vie et du ministère. Je voudrais, avant de présenter cette deuxième réalité, nous amener à lire cinq portions d'écriture qui vont nous servir de base et de fondement. 2 Samuel au chapitre 15. 2 Samuel, chapitre 15. Nous lisons du 1er au 6e verset, 10 à 13 et 30 à 31. 2 Samuel 15, 1 à 6, 10 à 13 et puis 30 à 31. Notez le second passage, 2 Samuel 16, verset 20 au verset 23. La première, c'est 2 Samuel 15, 1 à 6, 10 à 13, 30 à 31. La seconde portion, 2 Samuel 16, 20 à 23. La troisième portion, c'est le psaume 55. Psaume 55. Et là, nous lirons du verset 13 au verset 16. Psaume 55, du verset 13 au verset 16. L'avant-dernière portion, c'est Matthieu au chapitre 26. Et notre lecture va aller du verset 14 au verset 16, puis du verset 47 au verset 50. Matthieu 26, 14 à 16, 47 à 50. Et nous terminerons avec 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 4, du verset 14 au verset 15. Nous faisons la première lecture. Après cela, Absalom se procurant un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et s'éteignait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait « De quelle ville es-tu ?» Lorsqu'il avait répondu « Je suis d'une telle tribu d'Israël », Absalom lui disait « Vois, ta cause est bonne et juste. » Mais personne de chez les rois ne t'écoutera. Absalom disait, qui m'établira juge dans les pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi, et je le ferai justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers les rois pour demander justice. Et Absalom gagnait les cœurs des gens d'Israël. Nous faisons la deuxième lecture dans verset 10, au verset 13e, et puis verset 30 à 31. 10 à 13, Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, « Quand vous entendrez les sons de la trompette, vous direz Absalom règne à Hébron. » 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités à accompagner d'Absalom, ils les firent en toute simplicité sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville des Gilonites, des Gilos plutôt, Achitophel, les Gilonites, conseillers de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un va informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Verset 30, David monta la colline des Oliviers et il monta en pleurant et la tête couverte. Il marchait nu-pieds et tout ce qui était avec lui se couvrir aussi la tête et il montait en pleurant. On vint dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés, et David dit au Éternel, réduit en ayant les conseils d'Achitophel. 2 Samuel chapitre 16, versets 20 à 23. Absalom dit à Achitophel, consultez ensemble, qu'avons-nous à faire? Et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Les conseils donnés en ces temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité comme si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel donnés soit à David, soit à Absalom. Psaume 55. Qu'est-ce que je dis? Ouais, psaume 55, verset 13, verset 16e. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure. Au milieu de Matthieu, chapitre 26, 14, 16, et puis 47, 50. Alors l'un des douze, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner ? Et je vous les livrerai. » Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Verset 47, comme il parlait encore, voici Judas, l'un des douze, arriva avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui les livrait leur avait donné ces signes. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-les. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi, et il les baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et les saisirent. Et puis enfin, 2 Timothée chapitre 4, notre lecture va du verset 14 au verset 15e. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Après avoir vu l'abandon le mercredi passé, nous allons voir la deuxième réalité que peut-être certains ont déjà connue. Certains, les plus jeunes, des fois quand on en parle, se demandent est-ce que c'est réel, les gens peuvent faire ça. C'est la trahison. La trahison. La trahison. Nous allons étudier ce sujet dans quatre directions. Premièrement, nous allons essayer de définir c'est quoi la trahison? Définition, simplement. Après, nous verrons des principes attachés à la trahison. Nous en verrons avec la grâce de Dieu 9. Et puis, troisième point, nous verrons quelques causes des trahisons. Qu'est-ce qui amène les gens à trahir? Nous verrons quatre causes. Et nous terminons avec comment gérer et réagir face à cette réalité. Tous les textes que nous avons lus, les cinq, nous parlent des trahisons et des réactions face à cette situation qui fait très mal. Mais il est bon quand même que nous puissions nous mettre d'accord sur les contenus. Qu'est-ce donc la trahison? Notez ces quelques définitions que j'ai pu recueillir. La première définition, la trahison, c'est l'action d'agir en contradiction avec un engagement pris, mais qui est basé sur la confiance. Action d'agir en contradiction avec un engagement pris, basé sur la confiance. Je n'aurai que toi comme seule et unique épouse, que Dieu mettrait dans toute sa rigueur si une autre épouse, sinon une autre personne. Allez, et puis on termine par, oui, je m'engage. Et puis après on agit contrairement à cela. Donc action d'agir en contradiction avec un engagement pris, qui est basé sur la confiance. Deuxième définition de la trahison, c'est action de tromper la confiance de quelqu'un. Action de tromper la confiance de quelqu'un en manquant à la foi donnée. Action de tromper la confiance de quelqu'un en manquant à la foi donnée. Troisième définition de la trahison, c'est action de livrer ou d'abandonner quelqu'un qui avait confiance en nous. Action de livrer ou d'abandonner quelqu'un qui avait confiance en nous au profit de son ennemi ou de son adversaire. Donc on change de camp. Action de livrer ou d'abandonner quelqu'un qui nous faisait confiance au profit de son ennemi ou de son adversaire. Quatrième définition de la trahison, c'est le fait de faire connaître volontairement ce qui devait rester caché. Le fait de faire connaître volontairement ce qui devait rester caché et que l'on fait connaître dans le but de faire mal ou de fragiliser. Donc le fait de faire connaître volontairement ce qui devait rester caché et on le fait dans le but de faire mal ou de fragiliser. Cinquième définition de la trahison, c'est le fait de ne pas être fidèle à un engagement pris. Fait de ne pas être fidèle à un engagement pris en faisant les contraires dans le but soit de gagner quelque chose ou dans le but simplement de faire mal. Je reprends, fait de ne pas être fidèle à un engagement pris en faisant les contraires dans le but soit de gagner quelque chose ou de se faire simplement le mal. Sixième et avant-dernière définition, la trahison, c'est le fait d'être déloyal, mais volontairement. Manquer à la loyauté, mais volontairement. Alors nous allons voir quelques principes attachés à la trahison. Le tout premier principe, c'est que il n'y a trahison que lorsqu'il y a ces deux éléments. Il n'y a trahison que lorsqu'il y a ces deux éléments. Premièrement, une confiance totale donnée. Une confiance totale donnée. Qui amène à s'ouvrir et à partager des choses qu'on ne partagerait pas avec tout le monde. Donc je disais, il n'y a trahison que lorsqu'il y a au départ ces deux éléments. Premièrement, la présence d'une confiance totale donnée qui amène à s'ouvrir et à partager des choses qu'on ne partagerait pas avec tout le monde. Mais deuxièmement, il y a trahison aussi quand il y a proximité. Quelqu'un qui est loin ne peut pas te trahir. Donc il y a un, la confiance, et deux, la proximité. Seul un proche ou un intime peut nous trahir, pas quelqu'un de loin. C'est-à-dire quelqu'un en qui je faisais totalement confiance et des fois aveuglement. Seule cette personne en qui j'avais totalement confiance, cette personne avec laquelle j'avais une relation de proximité, peut pratiquer cette chose que nous avons essayé de définir, la trahison. Psaume 41, au verset 10, David en pleurant déclare ceci, « Celui-là même avec qui j'étais en paix et qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève les talons contre moi. » Celui-là même, dit-il, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, les Kinois diront « Piringaï ». C'est le piringaï qui t'a fait ça. C'est ma copine, ma copa. C'est pas quelqu'un que tu vois à peine. C'est pas quelqu'un que tu rencontres de temps en temps à l'église. C'est celui que tu appelles Yazampangi de Mpangi. J'entendais quelqu'un dire Yazamoukouetou. C'est avec cette qualité de personne que l'on peut parler de trahison. Psaume 41, verset 10. La version française courant les traduit ainsi, mon meilleur ami lui-même, Celui en qui j'avais confiance, avec qui j'ai partagé mon pain, s'est tourné contre moi. Une autre version dit, j'avais confiance dans mon meilleur ami. Il partageait ma nourriture. Eh bien, même lui, il est devenu mon ennemi. Deuxième chose, deuxième principe, la trahison n'a pas un seul visage. Mais la trahison peut avoir plusieurs visages. Avec toujours comme élément commun, la proximité. Une proximité qui peut être naturelle, et nous en parlerons tout à l'heure, ou une proximité qui peut être créée. Mais aussi la confiance, soit une confiance qui a déjà duré, qui a fait ses preuves, ou une confiance en train de se construire. Il peut y avoir, parmi les visages de la trahison peut avoir un visage en famille. Un frère qui trahit un autre frère. Une sœur qui trahit une autre sœur. Ou un frère qui trahit une sœur. Ou une sœur qui trahit un frère. Il peut y avoir trahison dans le milieu familial. Il peut y avoir trahison en couple. Un époux vis-à-vis d'une épouse. Et une épouse vis-à-vis d'un époux. Et je dirais par exemple, l'infidélité conjugale, c'est une trahison. C'est le fait de ne pas tenir, c'est briser la confiance. Mais troisième visage que peut avoir la trahison, c'est entre amis. Des gens qui n'ont pas des liens de sang, mais qui, à force de se côtoyer, arrivent à avoir un lien fort. Et puis finalement, quelqu'un en manque à cet engagement. Quatrième visage, ce sont des partenaires dans les affaires. Des intérêts communs vous lient. Et puis finalement, l'autre arrive à vous tourner les dos. Cinquièmement, des collaborateurs dans le ministère. C'est le visage. Mais sixièmement, le sixième visage que la trahison peut avoir, ça peut avoir un visage pastoral. Un croyant, une croyante à l'église vient au nom de la douleur, au nom de la culpabilité, au nom des choses qu'elle veut arranger avec Dieu, avouer des choses. Avouer des choses par crainte de Dieu. Avouer des choses pour avoir la paix de Dieu. Mais l'homme de Dieu soit les prend et l'amène sur la place publique, ou comme on parle à l'époque de l'indépendance, avant les indépendances, il semble, les gens d'une certaine obédience, entre guillemets, religieuse, les gens venaient confesser, j'ai volé deux chèvres, de telle personne, il vient pleurer pour faire la confession. Le lendemain matin, on vient l'arrêter. Il s'étonne. Moi, j'ai parlé à cet homme réputé, homme d'église. Quel rapport y a-t-il entre l'église et la police? Ceux qui ne savaient pas, il y avait eu trahison. Appelle l'homme sorti, lui, il appelle. Papa qui me bilangou dit moutaï bakayango. Et là, j'aimerais dire à nous, hommes de Dieu qui sommes ici, faisons très attention. Les gens viennent se livrer et des fois, ils livrent leur partie la plus sale parce qu'ils craignent Dieu, parce qu'ils veulent retrouver la paix. Et des fois, nous livrons ça sur la place publique. Et j'aimerais dire aux jeunes gens, surtout qui sont dans le ministère, apprenez à coacher vos épouses. Que des choses, des fois, les secrets des gens. Bon, nous partons du principe, on est un avec elle. Mais tu es un avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes réflexes que toi. Toi, tu as la capacité de garder les secrets, mais elle est là-bas pirier. Normalement, mon bal langa, c'est un gaffe, il y a bisayo. Tinazo, il y a mais, yo bomba. Au moins, maman, ouais. Azana malade, on a mis colo, y a ma béwana. Azana. Mais la coûte déjà battre thérapie. Et ça sort. Comme disait le feu Jacques-André Vernon, il dit, les secrets ne se définissent pas comme étant quelque chose qu'on ne dit pas. Certains définissent les secrets comme quelque chose qu'on dit à l'autre en disant de ne dire à personne. Lui aussi, il ira dire à quelqu'un, il dira ne dis à personne. Et puis ça va, et puis ça va, et puis ça va, et puis tout le monde sait. Combien de fois dans l'église, nous avons vu des gens comme ça qui se sont sentis trahis. Et certains ont décidé, Ngaï, Makambunanga, pourquoi il a livré des choses et l'homme de Dieu en a fait autre chose. Troisième principe, la trahison fait très mal. Très mal aux émotions, très mal aux sentiments. Seuls ceux qui ne l'ont jamais connu peuvent ne pas comprendre cela. Il faut avoir été trahi pour savoir ce que c'est. Ça fait très mal. Très mal aux émotions, très mal aux sentiments. Car lorsque la trahison arrive, il y a trois choses qui se passent. La première, c'est qu'on se sent fragilisé. On se sent fragilisé car l'autre sait et connaît beaucoup de choses nous concernant. Que va-t-il faire avec ces choses? Que va-t-il faire avec cette quantité, cette qualité d'informations? J'aimerais ouvrir une parenthèse que j'ai fermée. J'ai souvent des entretiens avec des jeunes d'aujourd'hui. Vous les jeunes d'aujourd'hui. Vous les jeunes d'aujourd'hui. Je pense principalement bon, un peu aux jeunes gens, mais aux jeunes filles. Déjà même nous les mariés, on ne les fait pas bon. Je ne sais pas pourquoi. Vous connaissez un garçon, ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois. Non, si tu m'aimes tellement, envoie-moi des photos de toi en sous-vêtements. Et puis va plus loin. Enlève les tops. Ça m'aide. Mais dans tout le cas, on va se marier, toi et moi. Je finirai par voir ça. Donc envoie. Et puis 6 mois après, il vient de dire, oh, je suis convaincu que toi et moi, ce n'est pas de Dieu. Et ces photos-là sont partout. Au Roman ressemble à l'Inzam, à Paris, on est Zika. Quelle naïveté dans l'église, vous aussi les frères. Et vous prétendez de vous être serviteur de Dieu. Vous prêchez l'évangile et vous demandez des photos. J'entends une jeune fille dire, pasteur, loba, c'est un raming, nazo lobelaye. Et quand finalement ils vont avec quelqu'un d'autre, tu te sens fragilisé. Que va-t-il faire avec ça? Où est-ce qu'il va amener ça? Deuxièmement, la trahison fait très mal aux émotions, aux sentiments. Parce qu'on a tendance à s'en vouloir d'avoir été naïf et d'être allé trop loin dans sa confiance et dans son ouverture. L'une des choses qui fait mal dans la trahison, c'est que c'est vrai, comme j'en parlais tout à l'heure, on en veut à celui qui nous a trahis, mais on a tendance aussi à s'en vouloir soi-même. J'aurais dû être prudent. J'aurais dû ne pas trop m'ouvrir. J'aurais dû aller de là jusqu'à là, pas plus loin. En général, lorsqu'il y a trahison, il y a comme une culpabilité. Et cette culpabilité est souvent renforcée quand les gens nous avisent. Papa, il y a aussi la tu as confiance. Et finalement, un coup arrive. On s'en veut. Troisième chose qui fait que la trahison fait mal aux émotions et aux sentiments, c'est qu'on se sent comme déshabillé. Car l'autre peut nous présenter aux yeux de plusieurs sous un jour qu'ils n'ont jamais imaginé. J'ai quelquefois suivi des procès de couples qui s'aimaient et qui, puis à un moment, arrivent à penser qu'ils ne peuvent plus vivre ensemble. J'ai 2-3 fois assisté à ces procès. J'avais envie de me cacher. Chacun, pour avoir raison, commence à présenter l'autre sous un jour. Je me souviens d'un procès, une femme disait, mais est-ce que celui-ci, on peut l'appeler un homme de Dieu? Vous voulez que je vous dise, au moins 10 fois, je l'ai surpris en train de regarder des films pornographiques. Et il m'a supplié. 2 fois, je l'ai trouvé avec notre bonne. On se sent comme déshabillé. car l'autre peut vous nous présenter aux yeux de plusieurs sous un jour qu'ils n'ont jamais imaginé. David exprime cette douleur que la trahison cause. Dans Psaume 55, que nous avons lu au verset 13 à 15, il dit, ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. Mais écoutez ce qu'il dit, c'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Au verset 15, il dit, ensemble nous vivions dans une douce intimité, nous allions avec la foule à la maison de Dieu. La version Nouvelle Bible Seconde dit ceci, c'est toi mon intime, c'est toi que je connaissais bien. Ensemble nous connaissions la douceur des secrets partagés. La version Taube, traduction œcuménique de la Bible, dit, ensemble, nous partagions nos confidences. Je le faisais entrer dans les précarés, dans les lieux très saints, là où tout le monde n'a pas accès. Et puis voilà, il me lâche. Quatrième principe attaché à la trahison, parce qu'elle fait très mal et nous fragilise à cause de ce que l'autre sait de nous et de l'incertitude concernant ce qu'il peut en faire, la trahison s'accompagne presque toujours de ces deux sentiments. Je disais parce qu'elle fait très mal et nous fragilise à cause de ce que l'autre sait de nous et de l'incertitude concernant ce qu'il peut en faire, la trahison s'accompagne presque toujours de deux sentiments. Le premier sentiment, c'est l'amertume. L'amertume vis-à-vis de celui qui nous a trahis, on lui en veut. Et même on peut honnêtement nous souhaiter du mal. Si on est sincère, on lui souhaite même du mal, nous le verrons tout à l'heure. Mais deuxième sentiment qui nous arrive quand nous expérimentons la trahison, la tendance à vouloir fuir et à être ailleurs que là où les choses se passent. Dans Psaume 55, d'abord le verset 16, écoutez ce que le psalmiste dit. Il a été trahi, écoutez ce qu'il dit, que la mort surprenne ces gens, qui descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. La version parole de vie dit, le cœur de mes ennemis est plein de méchanceté, alors je souhaite que la mort tombe sur eux, qui descendent tout vivants dans le monde des morts. Mais écoutez ce que les versets 6 et 8 nous montrent. Il a été trahi, il veut être ailleurs où les choses ne se passent pas. Écoutez ce qu'il dit. Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent et les frissons m'enveloppent. Oh, je disais, si je pouvais avoir les ailes de la colombe, je m'envolerais. Et je trouverai les repos. Voici, je fuirai bien loin. J'irai séjourner au désert. La trahison donne envie de fuir. Je vais être ailleurs. Français courant dit du verset 7e. Je me disais, si je pouvais avoir des ailes comme la colombe, je pourrais m'envoler et me poser ailleurs. Parole de vie traduit le verset 8. Je partirai très loin. J'irai habiter même au désert. Cinquième principe. Attaché à la trahison, moins on est préparé et plus elle est inattendue de la part d'une personne, plus elle fait mal et très mal. C'est-à-dire, moins on est préparé et plus elle est inattendue de la part d'une personne, plus elle fait mal et très mal. Et nous retrouvons cela dans les propos de l'apôtre Paul qui a été trahi par Alexandre le forgeron, qui a sapé son autorité, qui d'après les théologiens a mené une fausse doctrine. En présentant Paul sous un autre jour, il semble que Paul lui cédait de temps en temps la chair. Et Paul exprime cela dans 2 Timothée 4, 14 à 15. Il fait mention de ces personnages qu'on retrouve seulement deux fois dans la Bible. Et il utilise des propos durs. Les commentateurs disent qu'il était compagnon de Paul dans l'œuvre à qui Paul faisait non seulement confiance, mais pleinement confiance. Et l'on dit qu'Alexandre le Procheron a fait plusieurs choses, mais on fait ressortir quatre. Il semble premièrement, il a changé dans sa conception doctrinale.
Deuxièmement, il a voulu et a commencé à vouloir faire changer même les troupeaux d'avis sur Paul et sur son enseignement. Et troisièmement, il a fini même par tenir tête à Paul. Au départ, il a commencé à divulguer ses mauvais enseignements. Troisièmement, il a tenu tête à Paul. Et quatrièmement, on dit, il a humilié même publiquement. Écoutez les paroles de Paul que nous avons mentionnées. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Francis Courant dit, il a très mal agi à mon égard. Taub dit, il a fait preuve de beaucoup de méchanceté à mon égard. Et presque comme une malédiction qui ne dit pas son nom. L'apôtre Paul, apparemment il s'en remet au Seigneur, mais c'est une malédiction pour lui. Il dit, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Nzambe kaka. Francis Courant dit, le Seigneur le traitera selon ce qu'il a fait. Parole de vie dit, selon ce que ses actes méritent. Et parce qu'il connaît comment celui-là lui a fait très mal, et il apprend qu'il est dans les sillages de Timothée, il dit à Timothée, garde-toi aussi de lui. Kebanaye. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Francis Courant dit, prends garde à lui toi aussi, car il s'est totalement opposé à notre enseignement. Parole de vie dit, il s'est durement opposé à ce que nous avons dit, méfie-toi aussi de lui. Sixième principe attaché à la trahison, plus elle est mal vécue, plus elle nous amène à des points de vue, à des prises de position extrêmes. Plus elle est mal vécue, plus elle nous amène à des points de vue et à des prises de position extrêmes. Que non seulement nous adoptons, mais dont on devient le prédicateur et l'apôtre. Papa, on a confiance dans tout ce qui est ninga. Ça nous amène à l'extrême. Gardons ça sous confiance na batute. Na kana job ou na cellule papa. Gai na cellule a job dans ça sous te. Bouke ba na ba job na ba cellule na bilo. Tendance à des prises de position extrêmes. Trahi par un fiancé moluba. Nani on a fiancé on aurait comme ka nani. Ah! Eh bon. Comme on se balade bien. Extrémisme. Mais je dis un extrémisme que non seulement on adopte, mais que l'on commence à partager. On demande aux gens de faire la même chose. Le prophète Michée, pour qui aucun récit de trahison n'est mentionné, va faire cette déclaration qui cache et révèle un cœur brisé, blessé et sûrement détruit par les glaives de la trahison. Michée chapitre 7, versets 5 à 6. Il dit, ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Michée, c'est la guionine. Ne fais pas confiance à celui qui repose sur ton sein. Garde les paroles de ta bouche. Michée, c'est la guionine. Ma conseil à boire. Non seulement que lui ne croit pas, mais il devient l'apôtre. Kebanabaninga. La version française courante dit, ne croyez pas à vos proches. Ne vous fiez pas à vos amis. Gardez-vous d'ouvrir la bouche, même devant votre propre femme. Ouf. Michel, frère Michel. Ne croyez pas ceux qui sont proches de vous. Ne faites pas confiance à vos amis. Tu avais une amie à qui tu faisais confiance, tu voyages. Va juste vérifier à la maison si mon mari et les enfants vont bien. Et puis après, tu apprends que elle commence à aller avec monsieur. Et puis notre amie sincère vient. Bino bandaka karaboué. Tibou ya ouyiba bisomi bali. On soupçonne tout le monde et on devient. Papa Ngaï, désormais, bana misala non zo amibali. Ya basité. Parce que Clémentine, la bonne, a eu un enfant avec monsieur. Papa Ngaï, désormais, bana misala, ya mibali. Puis il faut dans nos autres, kemba. Si David était ici, il nous relaterait sûrement ce qu'il a ressenti à la fois lorsque Absalom, son propre fils, est devenu son ennemi. Mais lorsqu'il a aussi appris qu'Achitophel, son conseiller le plus proche, l'avait trahi. Qui dirait-il? Méfiez-vous de vos enfants? Méfiez-vous aussi de vos conseillers les plus proches? Si Samson était ici, il nous relaterait ce qu'il a dû ressentir lorsqu'après qu'on lui ait crevé les yeux, que celle qui lui offrait les corps était des mèches avec ses ennemis. Samson serait de ceux de la doctrine. Qu'on lui en a moins si? Qu'on lui en a donc. Septième principe. Quatre choses peuvent rendre la trahison une chose, une situation pas facile à vivre. Qu'est-ce que j'ai dit? Je vais dire plutôt le contraire. Quatre choses peuvent, j'insiste sur le peuvent, hein, rendre la trahison une chose, une situation facile à vivre, qui nous fait moins mal que prévu. Quatre choses. La première chose, c'est le fait d'avoir été prévenu par le Seigneur. Jésus savait qu'il vivrait une trahison, et le fait que Judas l'a trahi, il n'a pas eu mal outre mesure. Mal, certes, d'avoir vécu ça, mais bon, ça n'a pas été une très grande surprise. Donc, dans les jours qui viennent, quelqu'un va te faire mal, Dieu te prévient. Et puis, quand ça arrive, tu dis, je t'ai prévenu. Deuxième chose qui peut atténuer la trahison et qui peut faire que ça nous fasse moins mal, c'est le fait d'être bien entouré au moment de l'épreuve. C'est-à-dire, en même temps, on est poignardé, mais on est entouré par des gens sincères qui nous aiment et qui sont comme une compensation. Eux m'ont quitté, eux m'ont fait du mal. Mais il y a des gens sur qui je peux compter. Ce fiancé est parti, mais papa et maman m'aiment. Mes sœurs m'aiment. Mon grand frère m'aime. Cet ami dans les ministères m'aime réellement. Troisième chose qui peut faire que la trahison soit moins mal vécue, c'est la maturité spirituelle. Et quand je parle de la maturité spirituelle, je ne vais pas parler des nombres d'années dans le Seigneur. Parce que certains peuvent avoir beaucoup d'années dans le Seigneur, mais ils ne sont pas matures. Je lis toujours la maturité spirituelle par la capacité à intérioriser la parole de Dieu, à la pratiquer, à la vivre. Plus on vit la parole de Dieu, plus on est apte, un peu comme la Bible dit, ne vous vengez point vous-même, surmontez le mal, parlez bien. Et ça, il n'y a que des personnes matures qui peuvent le faire, qui peuvent même relativiser. Il m'a trahi. Qu'ai-je à faire? C'est la nature des hommes. La Bible en parle. Et troisième chose, quatrième chose qui peut rendre la trahison quelque chose de moins violente, c'est la qualité de notre relation avec le Seigneur au moment où la chose arrive. En général, plus on est au top spirituellement, moins l'on vit mal la trahison. Mais si elle nous trouve au plus bas, on peut réagir aussi comme un païen. On pourra faire comme les Quinois disent, « Bomangai, Nabomayo, Toboman. » Il m'a fait ceci, je lui ferai aussi cela en retour. Huitième principe. Lorsqu'elle vient des personnes avec lesquelles on avait des relations moins intimes et moins profondes, elle fait moins mal. On avait certes une intimité, mais une intimité pas forte. Elle fait mal, mais elle fait moins mal. Lisez avec moi 2 Samuel chapitre 16, versets 10 à 11. David est trahi par Absalom. Il est trahi par Achitophel. Mais il est aussi trahi par Shimei. Mais on sait voir combien la trahison d'Absalom lui fait mal. La trahison d'Achitophel lui fait mal. La preuve, il les cite même dans les psaumes. Mais Shimei, ça ne lui fait pas beaucoup mal. Certes, ils ont commencé à avoir une relation, mais la relation n'est pas ou n'était pas si profonde que ça. Il dit ceci dans 2 Samuel 16, versets 10 à 11. Mais le roi dit, alors que son lieutenant Abishai voulait couper la tête à Shimei, il dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tirouza? S'il maudit ce que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Écoutez le verset 11. Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. À plus forte raison, c'est Benjamite. Laissez-les. Sa douleur, c'est Absalom. Sa douleur, c'est Achitophel. Shimei, c'est normal. Neuvième et dernier principe, c'est que nous ne réagissons pas tous de la même manière devant la trahison. Tous, nous pouvons vivre cette réalité, mais nous ne réagissons pas tous de la même manière. Beaucoup d'éléments entrent en compte dans notre réaction, trois principalement. Le premier élément, c'est l'âge physique et mental. C'est-à-dire l'expérience que nous avons de la vie. Celui qui expérimente pour la première fois la trahison ne réagit pas de la même manière que celui qui a un palmarès des trahisons. Il a 50 contrats comme Roland Dalo, à Zouama Kofi. Oh, bah, ça, un de plus. Mais quand on a 17 ans, 16 ans, on aime ces jeunes hommes. On apprend qu'il est allé avec sa meilleure amie. Il n'a pas beaucoup fait. Il n'a pas beaucoup fait. Il n'a pas beaucoup fait. Je suis étonné, je dis, n'a pas beaucoup fait. Il n'a pas beaucoup fait. Ceux qui ont un long vécu, ils apprennent à supporter des choses. Deuxièmement, notre personnalité ainsi que notre tempérament. Certains sont plus touchés que d'autres et d'autres le sont moins. Certains sont introvertis, ils souffrent, ils expriment, ils montrent. D'autres, ils ne montrent pas, mais ils ne souffrent pas moins. Et dernier élément, parmi les choses qui font que nous ne réagissons pas tous de la même manière, c'est comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est la profondeur de la relation et les degrés de confiance. En général, plus l'on faisait confiance, plus la relation était profonde, plus la douleur est très vive. Alors cela me permet de toucher le troisième point, quelques causes de trahison. Qu'est-ce qui fait que les gens arrivent à trahir? Mais avant d'aborder cela, j'aimerais dire, si la trahison est une chose unique, elle peut avoir plusieurs formes. Première forme, la trahison peut être due à nous, directement ou indirectement. C'est-à-dire consciemment ou inconsciemment, nous fabriquons un traître. J'en parlerai tout à l'heure. C'est nous qui donnons directement ou indirectement la possibilité à l'autre de nous trahir. J'aimerais déjà donner un exemple avant de revenir tout à l'heure. Patron qui gagne des millions et tu as un chauffeur qui t'accompagne partout. Partout. C'est lui qui fait avec toi des courses. Le travail est censé finir à 17h, mais il y a toujours des extras, tu les gardes jusqu'à 20h. Tu lui donnes un maigre salaire, et il entend chaque fois quand vous allez, tu nous accompagnes en ville au restaurant, tu entres avec des jeunes filles, vous dépensez 300$, et tu les laisses là. Même pas 5$ alors que vous êtes en train de manger, mais la coca. Et vous terminez, vous, les jeunes filles aussi entrent. Jean-Claude, maintenant on a besoin de moi 600 euros. Et il voit comment tu donnes les 600. Et au moment où tu vas descendre, patron, on a moins 5 dollars. Salaire, nous, ça on a. Non, mais ça passe, hein. Et cette même personne, quand demain on lui dira, tu es un tobo majouan, il faut avoir combien 200. Pour un coup, on a trompé sur moi 10 000. Ah, tu es beau zigouillé. Il t'a fait mal, mais c'est toi qui l'as préparé. Tu as fabriqué un ennemi qui se retourne contre toi. Aide-moi à dire à ton voisin, banga makam. La maman là qui travaille chez toi, qui voit comment tu jettes la nourriture. Elle demande même quelquefois, non, on a deux en famille, est-ce que tu peux me donner 20 dollars? Mais elle voit comment les enfants vont à Unga Busta, au Poeta, au Moeta. Tu la gardes au-delà du temps parce qu'il y a les visiteurs qui viennent de travailler sans se finir à 16h, 22h. Même pas un encouragement. Un jour, il y a eu cette attente au lingue sous tes oies, mbika ou. Tchè la inabilok. Tchè la maman, on a mbika. Vous connaissez le mbika chez les Kinois. Ah, des beaux pays, ça dit. À Kendepe. Des fois, c'est dû à nous. J'aimerais déjà à ce niveau dire, faisons attention aux gens qui ont notre vie. Il y a des gens qui ont notre intimité. Traitons-les bien. Maman, on a bon, c'est la rechambre. Maman, on a l'âme et la rabine. Chauffeur, on a keba. J'aimerais dire, on en a pas combat. Deuxième chose, c'est que la trahison peut être due aux autres, à leurs mauvaises intentions, à la rancœur, à la jalousie. Des gens peuvent nous trahir parce qu'ils ne nous supportent pas, ils veulent avoir ce que nous avons, ils ont vu ce que nous sommes. Troisièmement, la trahison peut être due aux gens directement connectés à nous pour toutes sortes de raisons, mais elle peut être aussi due à des gens qui n'ont rien contre nous, mais qui sont utilisés à cause de plusieurs raisons. Qui sont utilisés à cause de la pression qu'on fait sur eux, utilisés à cause de leur faiblesse dans un domaine, utilisant la cause de leurs besoins d'argent, nous le verrons tout à l'heure. Delilah a fini par trahir Samson, mais de prime abord, Delilah n'avait aucun problème avec Samson. Elle l'a fait à cause de la pression. Mais on sent aussi qu'elle l'a fait à cause d'un besoin d'argent. Fais ceci et on te donnera cela. Elle aimait tellement l'argent, prête à tout. Il y a des gens qui sont proches de vous qui sont prêts à tout. On dit du feu maréchal, Mobutu disait à l'époque que toute personne est achetable. Et il avait ce principe, il dit, chaque homme a un prix. Il y a des gens qu'on peut acheter à 1000 dollars, d'autres à 1 million. Quelqu'un d'autre pour un rien, il va te trahir. Mais quelqu'un d'autre, plus les intérêts augmentent même s'il t'aime. Il est prêt à te laisser partir. Quatrième forme, la trahison peut avoir deux formes adaptées au temps. Premièrement, il peut être un processus, c'est-à-dire quelque chose qui se développe lentement. Et la plupart des fois, c'est dû à des frustrations, mais ça peut être aussi un phénomène, un coup de tête. Quelqu'un décide subitement. Quand nous étudions les cas que nous avons mentionnés au départ, et d'autres cas qui sont dans la parole de Dieu, on voit quatre causes différentes des trahisons. La première, c'est la trahison d'Achitophel. Cette trahison est le prototype de la trahison classique, dont la cause est à la fois inexpliquée, inexplicable et incompréhensible, mais existante. Je répète, cause à la fois inexpliquée, inexplicable et incompréhensible, mais existante. En Chronique 27, au verset 33, présente Achitophel comme étant le conseiller du roi. En Chronique 27, 34, le présente même comme faisant partie du cercle fermé des trois conseillers les plus importants, mais les commentateurs disent qu'il avait prépondérance. La plupart des commentateurs disent que Achitophel avait droit à entrer même dans la chambre de David. On dit qu'il avait même le double des clés de plusieurs endroits. Il était l'un des rares à être reçu sans audience. C'est quelqu'un qui pouvait avoir accès au roi à tout moment. On dit que si David a pris 10 décisions, 9, il a eu à les prendre avec Achitophel. Pourquoi? Vous connaissez le célèbre passage où l'on parle de la qualité des conseils d'Achitophel. 2 Samuel chapitre 16 au verset 23 dit les conseils donnés en ces temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité comme si l'on avait consulté Dieu. Il semble qu'il était pointueux en analyse, en perspicacité, en lucidité. Il voyait juste et bien. Et c'était quelqu'un sur qui David s'appuyait. Si on doit utiliser un terme actuel, il était son conseiller spécial en matière de sécurité. Quelqu'un qui avait clé à tout. Et c'est cet homme, bizarrement, à peine Absalom s'est désolidarisé de David rapidement. Il est allé du côté d'Absalom. Étonnant. Qu'est-ce qui s'est passé? La plupart des commentateurs disent qu'il y a deux causes attaché à cette trahison d'Achitophel. Premièrement, les changements négatifs dans les façons d'être et de faire de David. Il a vu David commencer son ministère et la Bible déclare que David faisait justice à tout le monde et même au plus bas peuple. Et Achitophel aimait ça. Et puis il a vu petit à petit, de Samuel chapitre 15, du premier verset au verset 5, on parle. Certes, Absalom en a profité, parce que quand les gens voulaient aller chez les rois, il dit, pourquoi allez-vous là-bas? Personne ne va vous rendre justice. Il en profitait, mais c'était quand même l'état de l'époque. Les royaumes étaient corrompus. David était devenu un fêtard qui ne s'occupait plus des problèmes. Et Achitophel, qui était dans le précaré, voyait ça, il n'était plus d'accord. Mais vous savez, la plupart des fois, nous avons des gens qui sont à côté, qui ne sont pas d'accord, mais qui n'arrivent pas à l'exprimer. Frustré de voir les choses pour lesquelles il s'était battu, les rêves auxquels il avait adhéré, s'est transformé en cauchemar. Faites attention aux gens silencieux à côté de vous. Le silence ne veut pas dire qu'ils ne pensent rien. Des fois, derrière ce silence, il y a des choses. Et si vous voyez quelqu'un de silencieux, mais fait comme mes vieux ancêtres du Bas-Congo de l'Enfodengue, bah, silencieux, mais qui grince les dents. Ces grincements des dents dit tout. Deuxième cause, d'après les commentateurs, il semble qu'avec le temps, David a de temps en temps humilié Achitophel. L'on dit, et ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu, ça c'est la tradition qui en parle. Deux, trois fois, lui qui avait accès directement, il est venu pour le voir et il a fourvoyé. Je ne te reçois pas. Tu n'as pas vu que je suis avec des gens. Frustration. C'est pour cela que je disais, des fois on ne peut pas voir les causes. Qu'est-ce qui fait que cet homme change subitement? Toutes les frustrations subies. Et puis rapidement, Achitophel trahit. Il passe du côté d'Absalom. Il va du côté de l'ennemi. Deuxième cause, c'est la trahison de Judas Iscariote. Cette trahison est certes due à des causes spirituelles, car la Bible dit clairement avant qu'il n'aille trahir, on dit Satan entrant en lui. Il a été conditionné par cette force spirituelle qu'il a occupée, ou qui a occupé son cœur, et qui l'a amené à agir de la sorte. Mais au-delà de cet acte qui est arrivé apparemment subitement, on sait voir que déjà avant, il y avait des symptômes qui préparaient cet homme à devenir le traître qu'il est devenu. J'aimerais dire, faisons attention, nous ne connaissons pas totalement les gens. Jérémie le prophète, parlant sous l'inspiration de Dieu, dirait une vérité profonde en Jérémie 17, 9, il dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est méchant, qui peut le connaître? Parole de vie dit, le cœur humain est plus trompeur que tout. Personne ne peut le guérir et personne ne le comprendra. Dans Jean chapitre 12, verset 6, la Bible nous montre déjà que de manière subtile, Judas faisait mal et à Jésus, à son ministère, mais à son insu. Écoutez ce que la Bible dit, il était voleur et tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Avant qu'il les trahisse ouvertement, c'est déjà un traître en privé. Les entrées, c'est 10 000, 3 000, il bouffe. Il ne peut pas payer ça, trop dit. Il fait déjà mal en coulisses, il finira par faire mal en public. Mais deuxième chose, et là on voit de plus en plus les symptômes qui montrent une maladie qui va finir par faire mal. Matthieu 26, au verset 8, et Marc 4, au verset 8e aussi, on parle. Ces deux passages, on parle au départ comme une réaction collective. Mais ça parle aussi d'un acte qui a été posé. La femme pécheresse a cassé le vase d'albâtre et elle a pris le parfum des grands prix qu'elle a offert en essuyant les pieds de Jésus. J'ai dit Matthieu ainsi que Marc en parlent comme d'une réaction collective, mais Jean en parle mieux. Jean montre que ce n'est pas une réaction collective, mais c'est une réaction individuelle. Et les commentateurs disent même, c'est que Matthieu et Marc parlent d'une réaction collective, mais qui est un entraînement. C'est-à-dire, c'est Judas qui était l'instigateur et qui a amené les autres. Mais est-ce que c'est mon idée? Quand cette femme a offert, la Bible dit, les apôtres s'indignèrent. On aurait pu prendre cela et le donner aux pauvres. Faites attention quand vos collaborateurs commencent à vous discréditer en public. Jésus accepte l'offrande et ce ne sont pas déjà de loin. Ah, il n'y a pas les chrétiens. Il n'y a pas de l'offrande. Il n'y a pas de l'offrande. 20 000, 25 000, ma pas. Il n'y a pas de l'offrande. Il n'y a pas de l'offrande. Il n'y a pas de l'offrande. Indigné. C'est facile que demain ils vous fassent mal. Et quand vous lisez les contextes, dans leur réaction, ils font deux choses. Ils font de Jésus quelqu'un qui accepte des choses inacceptables. Et deux, ils veulent culpabiliser la femme. La preuve même après, Jésus dira, ne faites pas de la peine à cette femme. Donc ils présentent Jésus-Christ d'abord comme quelqu'un pas spirituel. Comment il accepte ça? Il aurait dû ne pas accepter. Jésus-Christ est obligé de discuter avec lui. Les pauvres, vous les avez tous les jours. Et moi, vous ne m'avez pas toujours. Mais c'est Judas. Il y a des gens qui ont les grains de la trahison. Faites attention. Vous observez une première fois, une deuxième fois. Retenez cela. Ils disent, à quoi bon cette perte? Wow. Et l'autre version dit, à quoi bon ce gaspillage? La Bible dit, dans Matthieu
26 au verset 10, Jésus s'en étant aperçu leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle fait une bonne chose à mon égard. Français courant dit, pourquoi tracassez-vous, plutôt, Nouvelle Bible seconde dit, pourquoi tracassez-vous cette femme? Troisième cause, il y a la trahison incompréhensible encore d'Absalom. Vis-à-vis d'un père. Je peux me poser la question, qu'est-ce qui peut amener un fils à faire mal à son père? Regardez comment il va les discréditer aux yeux des gens. Il abaisse son père. Les gens vont, n'allez pas là-bas, ça sert à rien. Il abaisse aux yeux des gens. À quoi cela est dû? Le contexte montre que cela est dû simplement à l'ambition. Et j'aimerais dire, l'ambition en elle-même n'est pas une mauvaise chose. Désirer avoir des choses, désirer atteindre un certain. Mais les grands problèmes, qu'est-ce que l'ambition te pousse à faire? Il y a des gens, à cause de l'ambition, les vertus sont passées de côté. Je suis prêt à tout pour arriver là où je veux arriver. Et c'est ça, Absalom, qui trahit par ambition. Qui trahit parce qu'il veut aller plus loin. Et il est prêt à faire mal à son père à un degré inimaginable. De Samuel 16, verset 20 à 22, il suit les conseils d'Achitophel. Il va même avec les concubines de son père. Et les conseils qu'il lui a donnés, en faisant cela, deux choses. Premièrement, tu rendras moins cher ton père aux yeux des hommes. Et tu vas décourager les gens qui sont avec lui. Et parce qu'ils étaient prêts à faire très mal, Absalom est prêt à aller jusqu'à ce point. Va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père. Et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. Parole de vie dit, en agissant ainsi, ton père ne pourra plus te supporter. Tob dit, tu te rendras insupportable à ton père. Et il est fait. Quatrième cause de trahison, c'est celle qui nous est montrée dans 2 Timothée 4, 14 à 15. C'est la trahison d'Alexandre le forgeron. Une trahison assumée. Une trahison justifiée et même défendue. Mais la plupart disent qu'il était jaloux de Paul. Il était envieux. Il désirait avoir la position que Paul avait. Il avait mal que les gens accordent à Paul la préséance. Un peu comme Corée, Dathan, Abiraham. Ils disent, mais tous, on est spécial. Pourquoi tu t'élèves aux yeux des gens? L'envie l'a poussé à faire ce que Paul a dit, il m'a fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. La grande question, alors que je vais aller tout à l'heure petit à petit vers ma conclusion, toucher la quatrième, le quatrième visage, il y a des trahisons dues à la naïveté. Trahisons dues à la naïveté. C'est-à-dire l'absence de prudence au fait de faire confiance trop rapidement sans prendre des précautions. Au fait d'être crédule. Je ne veux pas nous demander de soupçonner tout le monde. Mais j'aimerais dire trois choses importantes que je vous prie de noter. Qui sont des erreurs fatales des fois que nous commettons sur le chemin de la vie. La première erreur, souvent nous faisons trop vite et trop rapidement confiance au point de nous ouvrir. Il y a des choses qui, avant qu'on les partage, l'autre doit donner des preuves qu'il mérite la confiance. Vous connaissez à peine il y a un mois, à peine 6 mois, à peine 9 mois. Tu es prêt à l'amener juste dans ta chambre à coucher. Moi, j'ai des gens, des amis que je connais en Europe. Depuis que je les connais, on se rencontre toujours au resto. Ils t'invitent jamais. Et c'est là où j'ai appris ce principe. La première fois, il m'a invité à la maison et dit, je l'ai fait parce que j'étais suffisamment observé. J'ai dit, ah, donc c'est ça le message. Tant que je ne te connais pas suffisamment, restaurant. Mais nous, ils arrivent, comme j'ai dit, nous faisons trop rapidement. Ah, je t'entends dire au nom de la spiritualité. Ok. Deuxième erreur que nous commettons, nous accordons trop rapidement les statuts d'amis aux gens.
L'amitié, ça se décrète pas. Je me suis un jour, à la bande, quelqu'un vient me dire, hey, est-ce que toi et moi, on peut devenir amis? Oh. Ceux avec qui je suis devenu ami, ça ne s'est jamais demandé. Pasteur Kali, je l'ai retrouvé dans le cercle des responsables de la jeunesse. On s'est petit à petit rapprochés. Il y en avait plusieurs. Il y a d'autres qui sont toujours mes frères. Je n'ai rien contre eux, mais ils ne sont pas mes amis. Mais avec lui, un lien s'est créé au fil des années et c'est devenu cette amitié. Des fois, comme je dis, nous accordons trop facilement le statut d'amis aux gens. Et puis enfin, la troisième erreur que nous commettons, nous accordons à certaines personnes le privilège d'avoir accès à certaines informations dont ils n'auraient pas dû avoir accès. Je dis au nom de la spiritualité, nous ne devons pas être naïfs. Juges chapitre 16, versets 16 à 17, nous parle de Samson qui a fini par s'ouvrir et ne plus résister et dire des choses qu'il n'aurait pas dû dire. Dis-moi quel est le secret de ta force. Remarquez, il s'allait déjà ensemble. Il connaissait son corps, mais les secrets, il gardait. À force que cette femme insistait, il avait dit comme elle était chaque jour à les tourmenter, à l'importuner par ses instances. Son âme devint impatient à la mort. Et il lui ouvrit son cœur et lui dit, et la suite. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire à tout le monde. Si finalement tu dois les dire, rassure-toi de la qualité de la personne en face de toi. Rassure-toi que Dieu est dans ces processus. Jean chapitre 15, verset 15, ce passage m'étonne. Ça part d'une déclaration de Jésus, mais faite après 3 ans de relation. Après 3 ans. Écoutez ce qu'il dit aux gens qui l'entouraient. Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami. Beaucoup mis ami Lélo. 3 ans, ils étaient ensemble. Mais ils n'étaient pas amis. Qui m'a bandé Lélo. Je vous ai observé. J'ai vu que vous êtes digne de confiance. Toi, l'amitié de moi, ami. Quelqu'un que tu découvres à peine. Est-ce que tu sais d'où il vient? Tu sais qui l'a envoyé? C'est peut-être un infiltré qu'on a envoyé. Il joue tellement le jeu, dispose à te rendre service. Et tu vois son zèle et tu ne sais pas. Combien nous commettons ces erreurs et finalement nous les regrettons. J'en ai parlé une fois ici et je reviens encore sur ce passage. Merveilleux passage de 1 Samuel chapitre 10. Versets 15 à 16, j'ai été étonné. Saül n'avait même pas 40 ans. On dit qu'il avait entre 28 et 30 ans. Il vient de recevoir une révélation glorieuse de la part de Samuel. Samuel lui a dit des choses à qui appartiennent toutes ces bonnes choses qui sont en Juda. N'est-ce pas à toi et ainsi que à la maison de ton père. Et à peine il quitte cet endroit, l'abbé dit que son oncle l'approcha. Et son oncle lui pose la question, tu as été voir Samuel, raconte-moi tout ce qu'il a dit. Et l'oncle en Israël avait quasiment le même statut que le père. Mais étonnant quand vous lisez le verset 16, la Bible dit, Saül lui parla des ânes retrouvées, mais ne lui parla pas de la royauté. Les ânes simplement. Saül, bon, j'aimerais dire, sur le chemin de la vie, il y a des gens, la conversation doit s'arrêter aux ânes. ne parlez jamais de la royauté. Pour parler de la royauté à quelqu'un, rassure-toi, c'est Dieu. Papa, contrairement, on a aussi signé. Affaire, on a coupé sa bisso. 200 000, Natongomo. Ouais, la nage à recepé là. Tchor, Razali Bosonaï. Un tchor chantant la chorale. Un tchor prêchant. Bon, si ce qu'on a matin, on s'était en guerre, bah, et bon, gâté, et simbaté. Et demain, tu retournes encore contre lui, mais, copain, go, si, mette, papa, photo, bon, dans moi, tout ça, on a combat. Mon tazou combat, tu es où, on a qu'en face. Les gens de la cité disent, battez la mounoko, ou bien la moukile. Aide-moi à dire à ton voisin, ne dis pas tout à tout le monde. J'ai dit, nous accordons le statut d'amis à tout le monde. Tout le monde. Cette jeune fille qui est à tes côtés, tu ne sais pas qu'il envie aussi ces garçons qui s'intéressent à toi. Avant 3 jours, elle t'a dit qu'elle était allée en retraite à Mangengenge. Elle était allée prier, elle dit, si ma montée ma Jean-Claude, dans l'autre cas, Jean-Claude, tout le temps, tu robes à Pembe, Jean-Claude, Pembe, dans le costume à noir. Jean-Claude vient te dire, je m'intéresse à toi, mais garde encore, yo, koutane, comme un copa, copa, bêta, bêta, bêta. Tout le temps, Jean-Claude, dans le restaurant. Alors, yo, quand Aza, yo, konda, ba, komba, mangin, yo, pour Jean-Claude. Nga se pela ranete ti a reglise ou pika sa lokuta pina munene na yoana age na yoana 22 ans tala munene deja papa nga tanzamba kabelinga ya ofele na kozwate. Le but c'est que laisse-le. Il y a des gens, tu dois leur présenter les plats déjà bien préparés. J'ai appris à garder des secrets. J'ai appris que tout le monde ne partage pas notre joie. Saül nous apprend, Anès, point très. Et pourtant, on vient de lui parler aussi de la royauté. Proverbe 10, 19 dit, celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Prudent. Toutes les révélations que Dieu te donne, tu en parles. Papa nga den zamba la ksinga église ko tika na ngai. Ba ken na ba nina do bazaka na ba 3 ans. Héritier spirituel à Dalo. Est-ce que comme na mato ya ken? Ah ba alléluia. Seigneur, merci pour na 3 ans nazana. On a ça la ngomba ngo yazwa. Robin, mon frère, tu offres l'église na Bolobo. Tout n'est pas à dire. Tout n'est pas à partager. Des fois, des vraies révélations, des choses que Dieu nous donne, mais nous nous mettons sur la place publique. Nous avons accès à frère Gaspard de Mobali Nangaï. Dis quand nous avons accès à Gaspard. Alors je vais aller pour conclure. Comment gérer et réagir face à cette réalité? Je prends juste 5 réactions rapidement. La première, il faut savoir qu'elle peut arriver et qu'elle peut venir de n'importe qui et n'importe quand. Savoir que la trahison peut arriver. Elle peut venir de n'importe qui et n'importe quand. Deuxièmement, prier chaque jour pour 2 options. Soit qu'elle ne nous arrive jamais, ou soit si elle arrive, que Dieu nous aide à bien la gérer.
Moi, avec l'expérience de la vie, je m'attends à tout de la part de tout le monde. Troisièmement, prier chaque jour pour notre cœur. Parce que quand la trahison arrive, c'est notre cœur qui est touché. Proverbe 4, verset 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Priez pour notre cœur. La trahison, c'est comme un coup de poignard. Et comme je l'ai dit au début, quand ça vous arrive, vous devenez amer. Vous pouvez souffrir à la fois moralement, émotionnellement, mais ça peut aller même jusqu'à la maladie physique. On peut faire des maux d'estomac. On peut faire des lipos, des hypertensions. Ah, Salinga vraiment boyé. Celle à qui je faisais confiance, c'est lui en qui je faisais confiance. Quatrième chose, demander à Dieu dans la prière, c'est quatre attitudes au cas où cela nous arrivait. La première, que nous puissions nous surpasser. Si cela arrive, que nous puissions nous surpasser. La deuxième, que l'amertume ne soit pas notre partage. Que l'amertume ne soit pas notre partage. Et sur ce plan, David a été fort. Il banalise, il dit, celui qui est sorti de mon sein, fait ceci. À combien plus forte raison d'autre. Romains 12, verset 17 et verset 21 disent, ne rend en personne le mal pour le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par les biens. J'aime ce que Hébreux 12, 15 dit, veillez à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble. Quand l'amertume rentre, ça vous ronge. Troisième chose, troisième attitude à faire si cela arrive, pardonner. Cela n'est pas facile. Mais c'est ce que la Bible nous demande. Je suis étonné lorsque Christ prie sur la croix. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis enfin, quatrièmement, pas faire du mal en retour. En Pierre 3, 9, dit, ne rendez point le mal pour le mal. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Cinquième et dernière attitude, quand cela arrive, en faire un sujet d'enrichissement. Des fois, Dieu laisse qu'on nous trahisse pour assassiner la naïveté en nous. Si vous êtes trahi, cette expérience, comme je dis, certes, sans vous amener aux extrêmes, doit faire que dans votre comportement, il y ait un avant, un après. Je faisais trop aveuglément confiance, maintenant je vais temporiser. Que des gens qui vivent après cette expérience, comme si de rien n'était. J'insiste, il ne faut pas aller à l'extrême. Mais il est bon, dans notre façon de vivre, que les choses changent. La Bible ne dit-elle pas dans Ecclésiastes 7, 14, au jour du bonheur, sois heureux, mais au jour du malheur, réfléchis. Et Jésus m'épate par sa maîtrise devant la trahison. Un, il savait que Judas l'avait trahi. Au jour de la Sainte Cène, il dit, l'un de vous va me trahir. Et les disciples commencent à tous à poser la question, Seigneur, est-ce moi? Je suis étonné, permettez-moi les termes, par les culots de Judas. Judas vient et dit aussi, Seigneur, est-ce moi? Oh! Il a déjà l'argent en poche. Et il demande, est-ce moi? Mais j'aime encore la maîtrise de Jésus. Je prie que Dieu nous donne ces choses. Quand Judas vient avec les gens armés de bâtons, il leur a donné un signe. C'est lui à qui je ferai la bise. C'est lui. Certains peuvent penser que c'est juste une salutation, mais c'est le code pour identifier. Parce que c'est difficile à reconnaître. J'aime la maîtrise de Jésus. Quand Judas vient les saluer, certains disent que Christ a dû prononcer ses paroles avec irritation, mais ça ne se sent pas. Il dit, ce que tu es venu faire, fais-le. Salango. Bambo to nyoso tu na pamba. Sala. Mais plein de maîtrise. Plein de maîtrise. Dieu m'a mis à cœur de parler de ces deux réalités que nous rencontrons sur le chemin de la vie. mais aussi sur le chemin du ministère. Avez-vous été trahi hier? Votre cœur saigne-t-il encore? Êtes-vous suffisamment et trop naïf? Et Dieu a voulu vous et nous équiper au travers de cet enseignement. Faites-vous de quelqu'un un ami trop rapidement? Livrez-vous trop rapidement vos secrets? J'insiste, le but, ce n'est pas de nous rendre méfiants, et surtout méfiants aux trans, mais la prudence. Dans les mots clés dans la parole de Dieu, c'est l'équilibre. J'aimerais nous inviter ce soir à baisser nos têtes dans la prière.